France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Fanny Richet et Loïc Antoine. Réalisée par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. Le 9 décembre 1905, la France adoptait un régime laïque avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. Un système considéré comme unique au monde, mais plusieurs pays ont choisi d'autres formes de séparation. État et religion, les voies de la laïcité. C'est notre série de la semaine. Nous parlions hier de l'Irlande, où l'Église est priée de céder du terrain. Aujourd'hui au Brésil, où l'ancien président Jair Bolsonaro n'est pas le seul à invoquer Dieu dans ses discours.
Muito obrigado, meu bom Deus.
Merci mon Dieu de me guider dans cette difficile mission que tu m'as confiée, de m'avoir accordé la confiance de tant d'hommes et de m'avoir accordé la charge de devenir le chef de l'exécutif. La victoire est à nous parce que le Brésil est la terre du Seigneur.
Depuis là-haut, Dieu me dit « Lula, prends soin de ce peuple ». Ce peuple ne veut pas de beaux discours, il veut manger à sa faim. Il ne veut pas de discours, mais de l'emploi.
Jair Bolsonaro était seul pendant longtemps. Aujourd'hui, beaucoup de nouveaux parlementaires sont prêts à prendre la relève pour satisfaire la population majoritairement conservatrice. Notre État est laïque, mais notre société est chrétienne.
Un État laïque qui, depuis 1891 ou 90 même, mais qui n'a pas relégué le religieux à la sphère privée au Brésil. Laïcité est surtout synonyme de liberté religieuse, laquelle a permis un pluralisme religieux, des églises qui se font aussi concurrence pour être celle qui murmurera à l'oreille des politiques. L'Église catholique a perdu son rapport exclusif à l'État brésilien à mesure que les évangéliques gagnaient du terrain. Des prédicateurs qui entendent eux aussi peser dans les débats de société jusqu'à la rédaction des lois, leur combat principal, lutter contre les mouvements qu'ils qualifient d'identitaires, ceux qui défendent les droits des autochtones ou des femmes. Eux n'ont pas spécialement l'intention d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes, éclaironnent la vérité à la façon, dirait Steinbeck, d'une fanfare municipale qui massacre l'hymne national. Qu'est-ce que la laïcité à la brésilienne? Pourquoi Jair Bolsonaro s'est-il entouré d'évangéliques quand Lula à gauche est plus proche de l'Église catholique, alors lui qui a dit lors de sa dernière campagne qu'il n'utiliserait pas l'Église à des fins politiques? Est-ce que cette promesse a vraiment du sens au Brésil? Nous en parlons avec nos invités. Bonjour Gabriela Valente.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'information, de l'éducation et de la formation à l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole, UMR Éducation, Formation, Travail, Savoir de l'Université de Toulouse. Merci beaucoup d'être en duplex avec nous depuis les locaux d'ICI Toulouse. Nous sommes également depuis Bordeaux avec Anna Carolina Freires Ferreira. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes docteur en sociologie, rattaché au centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. Alors, on a commencé notre émission d'hier avec un peu d'histoire. Nos invités nous racontaient comment, en Irlande, l'Église catholique a littéralement soufflé certains articles de la Constitution aux législateurs pour que Dieu soit cité un peu partout dès le préambule, à une époque d'après-colonisation où il fallait se démarquer de l'ancien colon britannique protestant. Au Brésil, Gabriela Valente, qui pèse dans la rédaction de la Constitution de 1891 pour qu'à l'inverse, l'Église n'y ait pas sa place alors qu'elle est très présente et influente à cette époque?
Alors, il faut savoir que tout d'abord, donc c'est en, les Brésil, c'est en colonie portugaise, et les moments où la famille royale portugaise vient au Brésil en 1808, ils amènent avec eux une grande quantité de personnes qui étaient des francs-maçons. Et donc, ces francs-maçons, ils apportent avec eux également des idées républicaines, des idées laïques, des idées libérales. Et ils instaurent la famille royale, en fait, ils instaurent un régime des contrôles de l'Église catholique au Brésil. Et donc, cette Église, elle était très, très contrôlée. Et ça les plaisait pas forcément d'être si contrôlés par l'État. Donc, avec les francs-maçons, ces idées républicaines, elles vont être preneuses. Et au moment, ils vont amener à un décret de séparation en 1889. Et cette séparation, elle plaît notamment l'Église catholique qui allait avoir plus d'autonomie et liberté. Et notamment, ça plaît aussi les Vatican parce que à ce moment-là, les clergés, ils étaient aussi francs-maçons. Et donc, l'Église catholique n'était pas du tout d'accord avec ça. Donc, c'est un des moments aussi des romanisations de l'Église catholique au Brésil.
Et donc ça arrange tout le monde en fait, ça arrange la séparation de l'Église et de l'État au Brésil en 1889, donc 16 ans avant la France et 2 ans avant la nouvelle constitution, enfin la première constitution de la République du Brésil, arrange plutôt tout le monde. On parle surtout de liberté religieuse qu'il faut préserver pour vivre tous ensemble en fait, pour réussir à vivre ensemble.
Et ce qui est important, c'est qu'on ne parle pas des libertés des consciences, on parle surtout des libertés religieuses. Donc l'Église, elle est séparés de l'État, mais comme ils comprennent, l'Église comprend que on est en train de construire une première constitution républicaine, ils essayent quand même de revenir vers l'élite politique pour qu'ils puissent avoir quelques privilèges déjà dans la première constitution. Et c'est ça que c'est fait. Ils arrivent à avoir, par exemple, des aides financières pour subventionner des œuvres, des bienfaisances, par exemple. Donc, la non-séparation, les mélanges entre les pouvoirs, ils commencent dès la première constitution républicaine du Brésil, malgré les décrets des séparations et des libertés religieuses de 1889.
Donc, première constitution que le Brésil, enfin, qui a changé depuis, le Brésil il n'est plus régi par cette constitution-là de 1891. Des dictatures militaires sont passées par là au XXe siècle et après leur chute, une transition démocratique et une nouvelle constitution en 1988. Comment la constitution actuelle formule le principe de séparation de l'Église et de l'État et celui de liberté religieuse? Est-ce que cette fois on parle de liberté de conscience?
Tout à fait. À partir de la Constitution de 1934, on commence à parler des libertés de conscience. Dans la Constitution actuelle, on a l'article 5 qui parle des libertés de conscience, liberté religieuse et des cultes également. Et l'article 19 qui suggère une séparation, mais cette séparation est... Elle a des exceptions, c'est-à-dire que ils peuvent avoir des collaborations quand nécessaire, quand l'État n'arrive pas à souffrir des besoins, par exemple. Donc, il peut avoir des collaborations et l'État ne contrôle pas les églises. C'est que je pense que c'est un problème actuellement parce que les églises font de prosélytisme, elles peuvent être amenées à prendre de l'argent de la population. Donc on peut penser que c'est une espèce d'escroquerie, par exemple. Donc l'État ne contrôle pas du tout les religions au nom de la liberté religieuse.
Certaines promettent le salut moyennant un petit billet, en effet, beaucoup aujourd'hui chez les églises, notamment pentecôtistes au Brésil. Donc cette expression de laïcité, la traduction française n'est pas totalement adaptée, comme dans tous les exemples qu'on cite depuis le début de la semaine. C'est une laïcité pleine de contradictions et de limites, comme on avait témoigné un débat très récent d'ailleurs au Brésil. C'est la présence d'un crucifix au Parlement, ça posait question. Le gouvernement a commandé un rapport sur la question l'année dernière et la conclusion de ce rapport, c'est que cette présence est plutôt normale puisqu'elle est en fait culturelle. La Cour suprême en a autorisé la présence de ces signes religieux dans les lieux publics, comme l'explique ici la juriste Alexia Portugal et le secrétaire général général de la Confédération nationale des évêques du Brésil, Dom Ricardo Oppers.
L'État brésilien adopte le principe de la laïcité collaborative. Et ce principe n'exclut pas la religion de la sphère publique. Bien au contraire, il adopte une position favorable à toutes les religions. Elles sont toutes les bienvenues.
La Cour suprême fédérale dispose de toutes les informations et perspectives nécessaires. J'espère qu'elle aura la sagesse de démontrer que les symboles religieux ne nuisent en rien à notre nation. Au contraire, ils constituent un héritage, un patrimoine, un don historique que nous devons préserver et protéger.
Ana Carolina Freires Ferreira, ce débat qui a ressurgi en 2024, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire un an plus tard et sur cette question de savoir comment on peut traduire la laïcité à la brésilienne, ce qui vous semble, vous, le plus important à noter dans la façon dont le Brésil aujourd'hui garantit à la fois la séparation de l'Église et de l'État, mais avec toutes les spécificités que Gabriela Valente a rappelées.
Alors aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est exactement c'est ce qu'il vient de dire, c'est cette collaboration. Mais même, enfin, si on pense plus spécifiquement à qui est très présent dans la politique brésilienne, ce sont les évangéliques, et qui sont depuis les années 80, et que progressivement, ce qui est très intéressant, en fait, plus que d'avoir plus de candidats évangéliques, plus que le rapprochement de certains partis, dont le Parti des travailleurs, dont enfin énormément de partis de ces églises-là, c'est en fait la pénétration de débats moralisants dans la sphère politique. Donc en fait, ça... Voilà, oui.
Oui, pardon, oui, parce que pour comprendre comment ça s'est fait aussi progressivement, avant que les évangéliques ne commencent à s'investir en politique dans les années 80, comment l'Église catholique a interagi avec la politique dans le cadre et non pas hors cadre de cette laïcité brésilienne? Est-ce que l'Église catholique a déjà soutenu ouvertement des candidats, par exemple, comme le feront plus tard des pasteurs évangéliques?
Historiquement, c'est pas tellement une question de soutenir un candidat ou un autre candidat, mais par exemple, l'Église catholique a été un acteur très important lors de la mise en place de la dictature militaire de 1964 et qui est allée jusqu'à 1985. Donc, en fait, à ce moment-là, il y avait ces mouvements dans la société qui commençait à se faire un mouvement réactionnaire, en fait, de retour aux traditions et de régler certaines politiques, certaines modernités. Et l'Église catholique, à un certain moment, elle va vraiment se rattacher à ça. Elle va faire une marche très importante qui va montrer le soutien de l'Église et du public catholique par la dictature. Mais au moment où la dictature se met en place, lorsqu'on va se rendre compte de ce que c'est ces pouvoirs non démocratiques, l'Église, elle va au contraire être très active dans la résistance contre la dictature en créant une coalition avec des mouvements sociaux de gauche, y compris par exemple le féminisme de 12e vague, tout ça sous l'égide de la théologie de la libération.
Donc, qui était très présente au Brésil, en effet, avec des communautés ecclésiales de base, comme on les appelait, une action politique de l'Église très ancrée sur le terrain.
Exactement, parce que ce n'était pas quelque chose qui venait d'un haut. Et ce n'était pas, par exemple, ce qu'on voit aujourd'hui avec les évangéliques, où il y avait des candidats, où il y avait... Non, c'était vraiment un travail politique, mais un travail politique pastoral, vraiment auprès des personnes, pour leur propre résistance, pour leur propre émancipation. Mmh. Et à cette époque-là, même à la fin de la dictature militaire, l'Église catholique, elle conservait encore un tel pouvoir et dans les images, en fait, qu'on se faisait de cette Église, un tel rapprochement de la gauche que les évangéliques qui, à ce moment-là, vont commencer à entrer dans le champ politique en parlant d'une crise morale de la société, etc., qui va justifier la rentrée dans la politique. Ils incluent l'Église catholique dans cette histoire de crise. Il y avait dans certains milieux évangéliques plus conservateurs l'idée que les catholiques, ils feraient interdire les autres religions, qu'ils légaliseraient l'IVG ou les drogues, enfin, voilà, ça partait. Donc cette image de l'Église catholique a aussi contribué pour que les évangéliques entrent dans la sphère politique eux-mêmes.
Gabriella Valente, à ce sujet, et sur cette prégnance très forte de la question sociale dans l'Église catholique pendant la dictature, est-ce qu'elle tient l'Église catholique brésilienne plutôt à distance de l'extrême droite, Jair Bolsonaro entre autres ?
En fait, il faut savoir que l'Église, au moment de la dictature, c'était les seuls acteurs à pouvoir agir. Parce que comme il y avait la dictature, les mouvements sociaux, ils étaient sous une grande répression. Donc l'Église, elle pouvait réagir. Et à ce moment-là, après cette fragmentation de l'Église un peu en deux, entre ceux qui ont un débat plutôt conservateur, un discours conservateur. Il y avait donc la théologie de la libération. Et donc, à partir de la théologie de la libération, donc l'Église va faciliter la construction des mouvements sociaux, y compris à cette époque, donc les années fin des années 70, début des années 80, la création de partis des travailleurs, donc les partis actuels, les partis politiques qui appartiennent à Lula. Donc étant les seuls acteurs politiques à pouvoir agir, il facilite la création de ces mouvements et au moment où ils ont une action assez forte dans la politique, il y a les Vatican qui viennent réprimander en fait l'action de l'Église en disant n'oubliez pas qu'il est droit canonique, il vous suggère de ne pas vous engager dans la politique. Donc, les Vatican, ils viennent réprimander l'action de l'Église en disant vous devez vous consacrer à la question du religieux. Maintenant, il y a d'autres acteurs politiques qui peuvent prendre la parole, donc laissez la place à ces mouvements-là. Donc, c'est là où vont surgir donc des nouvelles agendas politiques qui vont revendiquer les droits à l'avortement, mariage pour tous, beaucoup plus des libertés pour les minorités par exemple. Et donc l'Église catholique, elle est toujours présente dans les sphères politiques, mais aujourd'hui elle partage donc son pouvoir avec des mouvements politiques issus de donc force laïque et des mouvements civils, mais aussi avec, comme disait Madame Ferreira, des groupes évangéliques qui sont beaucoup plus visibles à partir dans la même époque en fait.
Oui, et la fin de la dictature en 85 marque le début à la fois du pluralisme politique, mais aussi de liberté religieuse. En tout cas, les mouvements évangéliques vont vraiment s'épanouir à ce moment-là et commencer surtout à s'investir en politique à ce moment-là, comme vous le rappeliez l'une et l'autre, en répondant à ce qu'ils perçoivent alors comme une crise morale des valeurs dans la société. C'est là vraiment qu'il faut commencer l'histoire, Anna Carolina Ferreira, de ces évangéliques qui aujourd'hui pèsent dans le milieu politique jusqu'à devenir littéralement une force au Congrès où ils représentent 40% des élus. C'est en 85 que ça se joue.
Oui, effectivement. Donc voilà, comme on vient de dire, la fin de la dictature militaire coïncide avec l'entrée des acteurs évangéliques dans les sphères politiques et aussi, comme vient de dire Madame Valente, aussi d'autres acteurs. On a beaucoup de ONG, on a des mouvements sociaux. Donc en fait, c'est un moment de pluralisme politique. Mais ce qui va faire que ce mouvement-là, il va être assez différent, enfin... Il va prendre un chemin assez différent. C'est en fait de comment ces publics-là, des églises évangéliques, ils vont être mobilisés. Parce que c'est aussi un nouveau moment pour un courant de l'évangélisme. Alors, ce n'est pas du tout un monolithe. Il n'y a pas du tout une cohésion interne. C'est quelque chose d'assez, surtout à ce début-là, c'est quelque chose d'assez hétérogène, mais qui va être très, très présent dans la politique, ce seront surtout les évangéliques pentecôtistes et baptistes. Et là, donc, ça coïncide avec un nouveau mouvement de l'Église pentecôtiste, c'est qu'on va commencer à appeler le néo-pentecôtisme, où il va y avoir une flexibilisation des mœurs à l'intérieur de l'Église, un plus grand prosélytisme. On va commencer à diffuser le message religieux beaucoup plus à la radio, parce qu'ils vont se construire leurs propres moyens de télécommunication, leur propre radio, voilà. Et donc, ça va aussi accroître beaucoup le nombre d'adhérents. Donc, on a une adhésion massive super importante et que va faire que petit à petit, ces personnes qui vont faire partie de ces églises vont constituer un électorat à être conquis, en fait.
C'est vrai qu'avec le recul, on voit bien comment le champ politique à la fois s'est polarisé dans les années 2010, en même temps que ces mouvements évangéliques prenaient énormément de place. Il y a, en 2013, ces grandes manifestations contre la vie chère au Brésil et contre la corruption, qui se transforment progressivement en manifestations contre le parti des travailleurs au pouvoir. Alors qu'en parallèle, la droite évangélique se radicalise en réaction à différentes mesures sociétales, comme en 2013, toujours l'autorisation du mariage des personnes du même sexe. Et c'est précisément dans cette période-là que Jair Bolsonaro se construit. Il émerge en 2016 en pleine réorganisation des droites et se fait très vite connaître, essentiellement Gabriela Valente, sur des thèmes politiques chers aux évangéliques. Il s'entoure d'évangéliques dès le début.
Oui, tout à fait. En fait, Bolsonaro, on ne sait pas trop bien. Il laisse ambigu son identité religieuse. Il joue un peu avec son identité religieuse pour avoir un électorat chrétien.
Il se fait baptiser en Israël dans le Jourdain en 2016, selon le rite évangélique de son épouse, mais lui est catholique officiellement.
Oui, et donc au moment de l'investiture de pouvoir, il a quand même une image d'un saint à côté de lui, de Notre-Dame à côté de lui. Donc en fait, il joue avec cette question, mais ce qui amène Bolsonaro au pouvoir, en fait, Bolsonaro, il était un homme politique depuis 1988. Donc il était déjà dans la politique depuis très longtemps, depuis 20 ans, et plus 30 temps même, et il n'a pas fait beaucoup de propositions des lois, il avait plutôt un profil, on va dire, non participatif, il proposait pas des projets des lois, et en fait, ce qui bénéficie aussi Bolsonaro, c'est une crise économique, on demande des nouvelles politiques contre la corruption, dont les manifestations dont vous avez parlé, et en fait, ce qui est important aussi, c'est que il mobilise les médias parce que c'est la manière dont les évangéliques aussi mobilisent les médias, les chaînes de télévision, les émissions des radios. Ils prennent une place assez importante dans l'espace public avec des manifestations, par exemple les marches pour Jésus qui réunit 2 millions de personnes. Ils ont des temples qui sont ostentateurs et donc ils mobilisent les médias dans une logique des marchés pour aussi diffamer, transmettre des rumeurs par rapport à ce qui s'est passé dans les gouvernements de Lula. Par exemple, Lula, en 2004, il propose un programme qui s'appelle « Brésil contre l'homophobie ». Et donc, ça va être utilisé et instrumentalisé par Bolsonaro en disant que c'est un kit gay, qu'il veut transformer les enfants dans les écoles pour qu'ils deviennent homosexuels, par exemple. Et donc, ces débats conservateurs, c'est à partir de ces débats conservateurs contre les communismes, les supposés communismes, contre Lula et contre les partis des travailleurs qui va amener aussi Bolsonaro au pouvoir.
pouvoir.
Un discours d'ailleurs qui sera repris par Jair Bolsonaro lorsqu'il sera président avec son projet de loi l'école sans parti, donc les pentecôtistes, les baptistes, ces églises évangéliques qui ont pris beaucoup de vigueur ces derniers temps ont beaucoup pesé sur la politique directement de Jair Bolsonaro, même si ce projet de loi l'école sans parti qui devait criminaliser tous les enseignants parlant de la gauche ou qui faisait de l'éducation à la sexualité, ce projet de loi ça sera finalement rejeté au niveau fédéral, mais ce n'est pas faute pour les évangéliques d'avoir essayé auprès de Jair Bolsonaro. Silas Malafaia, par exemple, pasteur de l'église de l'Assemblée de Dieu et soutien très important de le président à l'époque, en espérait beaucoup de ce mandat.
Au Brésil, en relation à Bolsonaro, est en pro de la famille.
Aujourd'hui, au Brésil, on voit Bolsonaro comme un défenseur de la famille. La famille avant tout. Le créateur nous dit « homme et femme, il n'y a pas de troisième sexe ». Le concurrent de Bolsonaro a créé le kit gay pour apprendre le sexe aux enfants de 0 à 6 ans. Ils ont lancé un manuel scolaire qui amène l'enfant à apprendre le sexe.
Reportage de François Cardona pour Envoyé spécial sur France Télévisions en novembre 2018, même si je crois que c'était un autre extrait. Bon, peu importe en tout cas, est-ce que Ana Carolina Freires Ferreira, les lobbies évangéliques aujourd'hui sont encore une force d'opposition ou de proposition ?
Oui, effectivement, c'est que comme exactement comme Madame Valente vient de dire, ce que Bolsonaro a fait, c'est que comme il y avait à ce moment-là une réorganisation de la droite, il a réussi à rassembler autour de lui d'un côté une droite évangélique qui s'était construite beaucoup en réaction à des changements progressistes dans les valeurs de la société et dans des politiques publiques, et aussi une droite libérale qui se positionnait très clairement contre la corruption et contre les partis des travailleurs. Donc, en fait, en se présentant comme un candidat anti-establishment, malgré sa longue carrière politique, il va rassembler ces deux droites autour de lui et présenter une vision très simplifiée de ces questions qui sont très complexes. En d'autres mots, il va utiliser depuis le début une rhétorique qui va répondre à ces deux dimensions de la droite en faisant un amalgame entre les partis des travailleurs, entre la question de la criminalité, la corruption, mais aussi tout ce qui est mouvements sociaux, soit-il lié aux questions des inégalités sociales, aux questions environnementales, de genre, sexualité, race, tout ça, ça va être désigné comme l'ennemi à être combattu à travers la restauration de valeurs traditionnelles, donc de la famille, de la patrie, de l'Église. Donc oui, il va répondre aux aspirations et aux peurs de cette droite et aussi d'une partie très conservatrice de la population évangélique en se présentant avec cette figure comme quelqu'un de très masculin, très autoritaire, sans concession. Et il va même être comparé des fois par des leaders religieux à des figures bibliques comme le roi David ou même à Dieu, etc. Donc on voit qu'il y a cette présence, c'est un électorat à être conquis et à des candidats avec qui on doit faire des alliances.
Donc ces églises évangéliques ont des demandes très précises sur des questions de société en général qu'ils vont souffler à l'oreille de Jair Bolsonaro, achat de bibles dans les bibliothèques municipales, opposition à l'avortement, au mariage pour les personnes de même sexe, mais aussi des demandes en faveur de leur propre église, des exemptions d'impôts, des effacements de dettes notamment. Gabriela Valente, c'est l'occasion de parler de l'article 19 de la constitution brésilienne qui normalement interdit à l'État de subventionner des églises. Est-ce que néanmoins, pour garantir la liberté de chacun de pratiquer, l'État peut venir en soutien aux églises d'une façon ou d'une autre, aux églises évangéliques comme aux autres ?
C'est ce qu'ils argumentent. Après, en fait, il y a quelque chose d'important quand on pense au pays. C'est un vaste pays, c'est un énorme pays où l'État, n'est pas centralisé, il n'arrive pas à répondre à tous les besoins de la population, à des besoins basiques. Quand Lula il dit la population a faim, la population a besoin avant d'avoir un emploi, ben en fait, ils parlent de fond de Brésil où effectivement la population a soif, ils ont pas accès à l'eau par exemple, à l'eau potable. Donc en fait, d'un côté, c'est les églises, ces églises qui viennent répondre à ces besoins de la population parce qu'il permet d'établir un réseau de solidarité entre la population où chacun vient avec ses propres compétences pour répondre à un besoin de la communautaire, un besoin de quartier par exemple. Donc ces églises, là je parle plutôt d'églises des quartiers, pas l'église qui a des temples ostentatoires. Donc ces églises des quartiers, elles arrivent à répondre à des besoins de la population. Et dans ce sens-là, c'est logique que l'État puisse travailler en collaboration avec l'église, parce que l'État est défaillant. Par contre, ce qu'il propose Lula, c'est justement de répondre, d'établir des politiques publiques pour toucher à cette population qui est périphérique, qui est pauvre, mais ils n'arrivent pas à toucher cette population justement parce que les évangéliques vont plutôt former leur population à voter à des personnes qui sont aussi évangéliques comme eux.
Et des évangéliques qui, par ailleurs, n'hésitent pas à pourchasser, violenter également dans les quartiers très populaires et dans les favelas, tous ceux qui pratiquent d'autres rites ou d'autres religions que les religions chrétiennes, pour le dire assez généralement. On en parlera dans le focus avec Ana Carla Rocha de Oliveira tout à l'heure. Donc, des évangéliques qui aujourd'hui prennent beaucoup de place dans la politique, qui demandent à l'État, par ailleurs, de les aider financièrement, même s'il est interdit par la Constitution à l'État de subventionner les églises. Néanmoins, ça a toujours quand même été le cas, Gabriela Valente. Il y a beaucoup, beaucoup d'églises au Brésil, y compris catholiques, parce que l'État a toujours trouvé une solution pour les... Non pas les subventionner, c'est interdit, mais pour les aider économiquement.
Tout à fait, parce que l'Église, elle était toujours là. Et si elle est toujours là, c'est parce que la population est très peu sécularisée en fait. Même si on a 9% de la population qui déclare ne pas avoir une religion. 9%, c'est rien. Donc tous les autres, ils ont une religion, ils sont croyants. Donc le fait que il n'y a pas il y a très peu de personnes qui ne sont pas croyants, ben si on n'est pas en accord avec les églises, ben on perd les votes, on perd la notoriété, on perd une réputation auprès de cette société.
Alors, est-ce que ça veut dire que par ailleurs la gauche brésilienne ne peut pas être laïque, laïcarde, laïciste, ou en tout cas davantage que la droite? Ça n'a pas de sens au Brésil, c'est ça, Ana Carolina Freires Ferreira? La gauche aussi est liée à l'Église, alors davantage catholique. Le clivage se joue peut-être là. C'est plutôt ceux qui sont proches de l'Église catholique que ceux qui sont proches des églises évangéliques, davantage que le clivage plus ou moins proche des églises.
Alors oui, effectivement, en fait, on va voir même les partis de gauche qui vont avoir des alliances avec les églises, avec les églises chrétiennes, j'entends, y compris les catholiques. Et ça, historiquement, hein, comme dit Madame Valente.
Est-ce que par exemple Lula a déjà été soutenu aussi par des évangéliques pour essayer de pas présenter les choses de façon trop monolithique non plus?
Oui, voilà, pas seulement Lula, mais d'autres candidats aussi comme Dilma Rousseff. Mais par exemple, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup les derniers 20 ans, les derniers 15 ans même. Mais historiquement, ces alliances, elles ont été assez instables. Si on pense, par exemple, dans le cas de Lula, la première fois qu'il se présente à la présidence, c'était en 1989. Donc, à ce moment-là, il a le soutien des certaines églises évangéliques, dont les pentecôtistes. En 92, quand il se représente, les pentecôtistes vont faire une campagne contre Lula en disant que lui, c'est le diable, que lui, il va interdire les églises évangéliques et ils vont se rallier en faveur de son adversaire. Les églises évangéliques, elles soutiennent au nom des candidats à ce moment-là, mais c'est par rapport aux alliances que ces candidats vont créer, entretenir avec elles. En 2006, on a par exemple Lula qui est soutenu par l'Église universelle du Reino de Deus, une église pentecôtiste. De l'autre côté, son adversaire, Geraldo Alckmin, qui est son actuel vice-président, qui était soutenu par une autre église, c'était l'Assemblée des Dieux. Ce qui va changer progressivement, c'est que simultanément, certaines de ces églises vont devenir plus grandes, plus riches et donc plus influentes. Donc, les questions qui les préoccupent en priorité, les questions morales, elles vont, surtout depuis 2006-2010, vont entrer avec toute leur force dans les débats. Donc, je pense qu'un exemple très intéressant, c'est en 2010, les élections présidentielles. On va avoir la candidate Marina Silva, qui c'est une candidate des Verts, mais c'est une femme évangélique, très ouvertement évangélique. Mais que lorsqu'il va y avoir des débats sur la possibilité de l'IVG, elle va perdre une partie de soutien des évangéliques, de la base évangélique, parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas exclure la possibilité de légaliser l'IVG. Alors que Dilma Rousseff, donc, qui est du Parti des Travailleurs, mais qui n'est pas une femme évangélique, au contraire, elle va dire que non, sous son gouvernement, il n'y a aucune possibilité de légaliser l'IVG. Et donc, elle va vraiment ramasser une base conservatrice, pas seulement évangélique, mais très évangélique, et elle va être élue. Mmh. C'est pas seulement à cause de ses positionnements, mais on va voir que de plus en plus, il y a une partie importante de l'électorat qui va être sensible à ce type de questions.
Alors... On arrive bientôt à la fin de cette première partie. On n'a pas encore évoqué, et c'est pourtant très important pour comprendre la laïcité à la brésilienne, on n'a pas évoqué les écoles publiques au Brésil qui sont obligées de proposer un enseignement religieux. Gabriela Valente, est-ce que ça veut dire que les élèves, eux, sont obligés de les suivre, ces enseignements?
Alors, dans l'enseignement religieux, c'est la seule discipline scolaire qui est présente dans notre Constitution. Donc, par l'article 210 de la Constitution, l'enseignement religieux doit avoir une offre obligatoire. Donc, toutes les écoles publiques doivent offrir cet enseignement, mais l'inscription des élèves est facultative. Donc, ça, c'est la Constitution. Ensuite, la loi des directrices des bases de l'éducation, c'est une loi qui date de 96, elle va dire que l'État ne doit pas se prononcer par rapport à la formation des enseignants, ni par rapport au contenu de l'enseignement de cette discipline. En 1997, il y a une modification de la loi qui va dire que l'enseignement religieux fait partie intégrante de la formation du citoyen. Donc, ça suppose que ceux qui ne participent pas de l'enseignement religieux, il n'est pas en pleinement un citoyen. Donc, dans la réalité, comme je vous ai dit, c'est un État qui est décentralisé, donc l'enseignement est aussi décentralisé. Donc, dans les réels, chaque unité des fédérations va s'organiser d'une façon différente. Là, il y a eu un concordat qui a été signé en 2008 et promulgué au Brésil en 2010, qui va reconnaître, par exemple, l'enseignement religieux confessionnel qui va permettre l'enseignement religieux confessionnel au Brésil.
Donc l'État finance l'enseignement religieux dans les écoles malgré cette séparation de principe des églises et de l'État. Est-ce que vous pouvez, pour conclure, Gabriela Valente, nous raconter en quelques mots ce que vous aviez vu lors de votre travail de thèse effectué? Vous aviez fait un travail comparatif entre deux écoles publiques brésiliennes pour voir comment est appliqué l'enseignement religieux et plus largement le rôle social des églises, la façon d'appliquer la laïcité et de la questionner. Comment ça varie beaucoup d'un établissement à l'autre?
Alors, il faut savoir que j'ai fait ma thèse dans l'unité des fédérations de São Paulo et qu'à São Paulo, comme c'est l'unité des fédérations qui décide, ben, en fait, l'enseignement religieux n'a aucune importance et donc aucune école, ou c'est très très rare l'école qui propose l'enseignement religieux. Donc, dans les deux écoles où je suis allée, il s'avère que c'était des écoles complètement différentes. Donc, une école où les enseignants avaient une formation un peu plus poussée, on va dire. Il y avait des enseignants qui avaient passé en thèse, par exemple. Et dans d'autres écoles, des enseignants avaient juste la licence. Donc, c'est un bac plus 4 nécessaire pour passer les concours d'enseignants. Et donc, on voyait que selon des types de situations en lien avec les religieux, les enseignants, ils avaient des pratiques professionnelles différentes. Par exemple, dans un établissement, il y a un parent évangélique qui a contesté l'enseignement d'une danse des traditions afro-brésiliennes, donc les jongos, et l'école s'est mobilisée pour expliquer aux parents qui les jongos faisaient partie de la culture afro-brésilienne et que c'était dans la loi depuis 2003. Il y a une loi qui prévoit l'enseignement d'histoire de la culture afro-brésilienne au Brésil et l'histoire et la culture autochtones aussi, donc c'est une loi qui est passée pendant les gouvernements de Lula. Dans les mêmes, ça c'est dans un établissement plutôt où les enseignants avaient une bonne formation. De l'autre côté, quand on va voir, par exemple, la directrice de l'établissement où j'ai enquêté, qui, de son côté, en étant évangélique, elle a censuré des travaux des enseignants qui cherchaient à travailler d'abord avec les Halloween, et ensuite, elle a censuré également des travaux en lien avec les folklores brésiliens.
Merci beaucoup. Et par ailleurs, les religions afro-brésiliennes, dans certaines écoles, comme vous venez nous le dire, Gabriel Valente, on apprend à mieux les connaître et à mieux les tolérer. À l'inverse, au niveau national, elles le sont de moins en moins. C'est ce que nous dira notre invité pour le Focus, juste après cette chanteuse brésilienne née dans une famille de témoins de Jéhovah à São Paulo, aujourd'hui militante des droits LGBT, Linda Quebrada.
Nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vêm.
Se homens se amam, se unem, se imem, se unem. Há quem costumeiramente ama, mente ama também. Mas vivem e vivem e vêm. Se homens se amam, se unem, se imem, se unem. Há quem costumeiramente ama, mente ama também.
Linda Quebrada et sa chanson Ora Chao, qui veut dire prière. Elle se réapproprie dans cette chanson la religion, puisqu'elle elle-même est née dans une famille de témoins de Jéhovah à São Paulo, et elle appelle à aimer sa communauté. Dans le clip, on voit des danseurs et des danseuses dans une église abandonnée, une chorégraphie dans cette église. Vous écoutez Culture Monde, c'est le troisième épisode de notre série sur les voies de la laïcité, laïcité à la brésilienne, qui consiste surtout en la protection de la liberté de culte. Or, les pratiquants de religion afro-brésilienne se disent de plus en plus réprouvés et ostensiblement par les églises évangéliques.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Depuis les années 70 et 80, ce sont des groupes néo-pentecôtistes qui sont devenus les protagonistes des attaques et de la violence. C'est une forme de croisade moderne. Il y a la volonté d'occuper un territoire comme ça s'est passé au Moyen-Âge. Il y a une lutte pour le pouvoir comme au Moyen-Âge. Et il y a une lutte économique.
Ce prêtre du Candomblé raconte ici à Louise Rollet pour France 24 les violences dont il fait l'objet, lui et les personnes de sa communauté. Il n'est pas le seul à en témoigner. Ils sont nombreux, ces personnes qui aujourd'hui pratiquent des religions afro-brésiliennes, dit-on, ou afro-descendantes, et qui se voient, disons, persécutées par des évangéliques qui voient en eux ni plus ni moins que le diable. Bonjour Ana Carla Rocha de Oliveira.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en anthropologie sociale, chercheuse associé au laboratoire L'Âme de Bordeaux. De quoi est-ce qu'on parle quand on évoque d'abord les religions afro-brésiliennes? De quelles interactions, syncrétismes sont-elles le résultat?
Alors tout d'abord déjà, je redis bonjour à toutes et à tous. Je remercie pour l'invitation. Alors quand on parle de religion afro-descendante, pour faire un petit topo sur cette religion et essayer de la comprendre, déjà il y a cinq dimensions que j'aimerais bien ici exposer, mais très rapidement parce que j'aurais pas le temps de développer. Mais déjà il y a une dimension historique du fait que cette religion-là s'inscrit dans un processus historique qui est celui de l'esclavage, donc de l'arrivée des populations noires au Brésil. Au XVIe siècle. Ensuite, on parle de dimension sociale aussi, qui, elle, renvoie plutôt aux inégalités sociales, et notamment aux classes défavorisées, qui sont celles, en tout cas, identifiées comme massivement fréquentant ces cultes. Ensuite, on parle aussi de dimension ethnique, qui, elle, va être plus en lien avec tout ce qui est identité et racines et matrices africaines, revendiquées aujourd'hui d'un plan de loi et de mouvement au Brésil. Ensuite, on parle aussi de dimension spatiale qui, elle, va être plus en lien avec ce culte qui est considéré comme étant un peu périphérique par rapport à d'autres cultes religieux et d'autres religions au Brésil, et notamment parce que ces cultes-là se situent dans des espaces périphériques. Voilà.
Au Brésil, pour la plupart, c'est vrai, oui, qu'il y a un grand mélange géographique, à la fois selon où on est au Brésil, on ne pratique pas ces religions afrodescendantes de la même façon, mais aussi parce que tous les esclaves africains déportés au Brésil à l'époque n'avaient pas les mêmes religions en pratique, ne serait-ce que parce qu'ils étaient originaires de plusieurs pays différents du continent africain. Donc il y a un univers, y compris spirituel, très large de toutes ces religions-là. On connaît un petit peu en France le candomblé, parce que l'anthropologue Roger Bastide nous a transmis ses connaissances à ce sujet. On parle aussi de l'Umbanda. En quoi consiste, en quelques mots, cette religion et ces rituels?
Et donc je reviens à ma dernière dimension, qui est la religieuse, et c'est celle qui est la plus complexe, mais du coup ça fait lien avec ce que vous venez de dire. Effectivement, donc c'est une religion, enfin c'est une pratique religieuse qui est extrêmement fragmentée, et donc du fait de toutes ces appartenances ethniques, de la provenance des esclaves qui venaient de différentes zones géographiques d'Afrique, et qui ont pu grâce au syncrétisme religieux, qui est une pratique un peu d'hybridation et de relier des entités auxquelles ils étaient attachés, ils s'identifiaient, et qui eux, donc ils avaient, voilà, les croyances de base, de relier à des saints catholiques, qui a fait que ça a complexifié en fait cette pratique, et il y a eu des ramifications ensuite qui se sont opérées dans les temps en fonction des contextes et des populations.
Alors on mobilise selon les pratiques des esprits plus ou moins évolués, ce sont les termes employés, je suis désolée de le dire comme ça. On ne peut pas rentrer dans les détails malheureusement, mais est-ce, ouais, que ces religions afro-brésiliennes ont été prises en compte au moment de rédiger la constitution de 1891? Est-ce qu'on pense aussi à elles quand il s'agit encore aujourd'hui d'affirmer la liberté de culte?
Alors ça, c'est une question très intéressante et pertinente, qui fait que c'est très complexe au niveau du Brésil, parce que la constitution telle qu'elle a été faite et signée, on est dans un volet beaucoup plus large qui met en lien plus la question de la race, de la couleur, de l'ethnie, de la pratique religieuse et de l'origine. Mais
on n'a pas une loi spécifique qui protège en fait ces populations. Et c'est toute la revendication de ces cultes aujourd'hui de promouvoir des politiques publiques qui puissent les protéger et qui puissent aussi sensibiliser la population à leurs pratiques religieuses. Et aujourd'hui, ce qui se met en place, ce sont des lois plutôt symboliques où on va mettre en avant plutôt la question de la matrice africaine, des racines africaines, etc., pour pouvoir valoriser ces pratiques.
Est-ce que les évangéliques ont en particulier un discours sur ces religions afrodescendantes? Pourquoi est-ce que ce sont eux dont on parle quand ceux qui pratiquent ces religions disent qu'ils se sentent aujourd'hui pourchassés, qu'ils se sentent rejetés, on va pas dire persécutés, tout ça c'était trop fort. Quoique, il y a eu pas mal d'incendies de lieux de culte dont on suppose aujourd'hui les enquêtes semblent se diriger vers les églises évangéliques. Mais qu'est-ce que ces églises reprochent à ces pratiques-là, oui, et à ces cultes?
Alors, du coup, c'est là aussi une question très vaste. Je pense que mes collègues ont dû évoquer rapidement, peut-être, mais...
Non, on a gardé ça pour vous.
Ok, d'accord, parce qu'en fait, il y a, lorsqu'on travaille sous ce champ-là, en tout cas, il y a cette question de diabolisation de l'autre et diabolisation de la pratique, du fait que ces pratiques-là, à la fois, sont considérées des pratiques un peu arriérées, mais aussi qui mobilisent des objets de croyance et des objets symboliques qui ont beaucoup de sens, signification pour les personnes qui pratiquent, mais qui est un peu détourné de manière à faire comprendre que ce sont des choses du démon. Et en fait, il y a cette diabolisation de l'autre à partir de ces pratiques, de ces croyances, qui fait que, à partir du moment qu'on est lié à cette pratique-là, à ces objets, eh ben, on est en train de s'inscrire dans une pratique démoniaque.
Oui, vraiment une diabolisation au sens propre, puisque les évangéliques qui préconisent la Trinité voient dans le camp d'Aublet, par exemple, et ses multiples esprits, la religion du diable. Ils disent que Dieu ne veut pas qu'on tue des animaux et qu'on boive leur sang. C'est oublié par ailleurs qu'Abraham a tué un mouton pour ne pas avoir à tuer son fils Isaac, mais c'est une autre histoire. Sur les réseaux sociaux, on voit certains accuser, par exemple, ces rites d'être à l'origine des inondations qui frappent régulièrement certaines régions du Brésil, de la colère de Dieu. De quelle violence vous pouvez témoigner? Alors vous travaillez surtout sur les églises évangéliques, Ana Carla Rocha de Oliveira, mais lorsque vous étiez sur place, vous avez entendu beaucoup d'actes de violence contre les lieux de culte de ces religions afrodescendantes?
Oui, alors du coup au Brésil, j'ai travaillé sur une échelle micro-locale, c'est-à-dire dans des quartiers métropolitains de la ville, notamment des quartiers périphériques, qui a fait que j'étudiais et j'ai cartographié pas mal d'églises dans ces quartiers-là, alors que les églises sont arrivées progressivement. Progressivement, ils ont investi ces espaces-là. Et ces espaces-là, il y avait déjà des cases de candomblé ou de umbanda, qui est une autre pratique, qui n'a rien à voir avec le candomblé, hein, parce que celle-là, ici encore, c'est une histoire de panthéon des dieux et de leur signification. Mais en tout cas, il y a des stratégies d'évitement social entre les personnes. On sent des tensions sociales entre les personnes, parce que du fait que cette personne représente et incarne l'image du mal, ou en tout cas des pratiques qui sont considérés diaboliques et diabolisés, eh ben on essaie de les éviter. Et moi, j'ai une anecdote, c'est que une des églises avec lesquelles j'ai travaillé, il y avait un passage pour accéder à cette église. C'était un passage très court où il y avait des maisons d'un côté et de l'autre. Et en fait, il y avait un terreiro, que c'est la case de Candomblé. Et il y avait des personnes de cette église qui disaient, mais je contourne ce passage pour aller à l'église parce que justement, je n'aime pas passer par là. Je veux éviter ce local parce que cet endroit-là est infesté de gens qui sont liés avec le démon.
Et moi, je vais peut-être aussi au peur des esprits, en fait.
Voilà. Et ça, alors, il y a des nombreuses anecdotes comme ça, hein, mais il y a des stratégies comme ça d'évitement social, de tension et de parce que il y a de la danse, il y a de la musique et donc des fois ça dérange. Et il y a les évangéliques qui mettent aussi leur musique, leur hymne gospel fort pour essayer d'être en concurrence justement.
Chacun fait écouter ses chants religieux pour couvrir le bruit de l'autre.
Voilà.
Je vous remercie beaucoup, Anna Carla Rocha de Oliveira. Je sais que vous aviez encore beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir été avec nous, docteur en anthropologie sociale, chercheuse associée au laboratoire LAM de Bordeaux, d'avoir parlé avec nous de ces religions afrodescendantes au Brésil. Et je remercie Gabriela Valente, maîtresse de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole et à l'Université de Toulouse, par ailleurs, d'avoir été avec nous. Elle est en duplex depuis les locaux d'ICI Toulouse. Merci également à Anna Carolina Freires Ferreira, docteur en sociologie rattachée au Centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Estelle Caméraire, pour votre revue de presse internationale, vous nous parlez de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge où les violences ont repris depuis dimanche.
On déplore déjà une dizaine de morts et des milliers de déplacés. Mais comme vous l'avez dit, les violences ont repris. C'est un nouvel épisode dans un conflit qui remonte au siècle dernier, écrit la BBC. Le média britannique explique que pour comprendre les tensions entre les deux pays, il faut remonter à l'époque de l'Indochine, lorsque les frontières des deux nations ont été tracées après l'occupation française du Cambodge. Au milieu de la frontière de plus de 800 km, une zone est contestée. Plusieurs temples anciens s'y trouvent, notamment le temple de Prévière, accordé au Cambodge par un jugement en 1962, rapporte l'Indian Express. Les tensions se sont accrues depuis 2008, lorsque le Cambodge a voulu faire inscrire ce temple du XIe siècle au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Guardian rappelle qu'après plusieurs affrontements meurtriers au fil des années, le conflit s'est aggravé en mai dernier, après la mort d'un soldat cambodgien, ce qui a entraîné des restrictions à la frontière, comme l'explique le quotidien britannique. Le Cambodge avait notamment interdit l'importation de fruits, de légumes et de gaz thaïlandais. Mais c'est en juillet que les deux pays ont subi les pires affrontements de la décennie, selon le Gavroche Thaïlande. Après 5 jours de combat, au moins 48 personnes ont été tuées et plus de 300 000 ont été contraintes de fuir leur foyer, rapporte le journal francophone. Le conflit s'est achevé par la signature d'un cessez-le-feu fragile négocié par Donald Trump et signé en octobre dernier, explique la chaîne télé indienne Hindustan Times, qui reprend dans une vidéo le discours du président américain. C'est un jour mémorable pour les peuples d'Asie du Sud-Est, car nous signons un accord historique visant à mettre fin au conflit militaire entre le Cambodge et la Thaïlande. Ces messieurs s'apprêtent à signer ce que nous appelons l'accord de paix de Kuala Lumpur, un nom qui sonne bien, dit Donald Trump avant les applaudissements. Mais début novembre, la Thaïlande a suspendu l'accord après l'explosion d'une mine, accusant le Cambodge de sabotage, raconte le Gavroche Thaïlande, qui explique que Phnom Penh avait dénoncé une manœuvre politique pour renforcer la présence militaire à la frontière.
Et depuis dimanche, les pays frontaliers craignent aussi que ça ne dégénère.
Le Cambodge et la Thaïlande, en particulier la Thaïlande, possèdent les armées les plus puissantes d'Asie du Sud-Est continental, rappelle le Gavroche. En 3 jours seulement, plus de 500 000 personnes ont dû être déplacées. 990 écoles ont été fermées le long de la frontière, rapporte le média anglophone Pratchatai. Dans un reportage du New York Times, on voit que les temples sont utilisés comme refuge pour des centaines de Cambodgiens. Certains avaient déjà préparé des affaires après les combats en juillet et déclarent ne jamais se sentir en sécurité à la frontière. Même pendant le cessez-le-feu, des soldats leur répétaient qu'il valait mieux récolter le riz plus tôt que prévu. Des remarques prises très au sérieux par des familles qui espèrent quand même retrouver la paix. L'ONU et les États-Unis appellent à respecter le cessez-le-feu, rapporte Cambodia News, mais les négociations sont exclues tant que les attaques n'auront pas cessé, explique le Bangkok Post. Les deux pays se renvoient la balle, ils s'accusent mutuellement d'avoir lancé les premières frappes et assurent que les opérations militaires vont continuer. En plus des tirs de roquettes, d'obus et d'attaques par drone, Cambodia News et le Bangkok Post rapportent que la marine thaïlandaise a été déployée. Ce matin, des roquettes cambodgiennes ont touché un hôpital thaïlandais, selon les dernières informations du Bangkok Post.
Merci Estelle Caméraire.